des problèmes d'inclusion, de motricité, c'est-à-dire qu'on peut avoir du mal à se déplacer. Il faut que l'élève soit volontaire, ce qui est souvent le cas, et il faut aussi que les parents soient avec nous. Et les enseignants se forment parce qu'il y a tout un plan de formation sur tout le Maroc.
Chers auditeurs, et bienvenue sur Écoutons la Fontaine. Ici, c'est Ali, et vous êtes à l'écoute de votre podcast préféré. Votre rendez-vous incontournable pour mettre la lumière sur un dispositif égalitaire dans le milieu scolaire et découvrir comment garantir que chaque élève, quel que soit son parcours ou ses particularités, puisse s'épanouir et réussir à l'école. Ensemble, nous explorerons les défis, les avancées, mais aussi belles initiatives qui font la différence de notre établissement. Alors, que vous soyez parent, enseignant, élève ou simplement curieux, restez avec nous pour une émission riche en réflexions et en solutions concrètes. C'est parti! D'abord, mon ami Serge va vous donner une petite définition de l'école inclusive.
Bonjour Ali. Eh bien, l'école inclusive est une école qui accompagne au mieux la scolarité des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers et qui introduit un système égal pour tous.
Merci Serge. Je donne la parole maintenant à Sami. Je pense qu'il a quelque chose à rajouter.
Absolument. Je pense que l'école inclusive est bien plus qu'une simple tendance. C'est un véritable enjeu de société. Le défi est de créer un environnement où chaque élève, indépendamment de ses différences, puisse se sentir accepté, soutenu et capable de donner le meilleur de lui-même. L'égalité des chances est au centre de ce système, pour que personne ne se sente différent ou mis à l'écart.
Saad, est-ce que tu penses que le défi est relevé dans notre établissement? Et par quels moyens?
Effectivement, l'accompagnement des élèves avec des besoins spécifiques nécessite une approche individualisée et c'est pour cela qu'une enseignante référente école inclusive est désormais présente en temps plein au GSU. Nous remarquons aussi la présence des AESH afin de gérer les difficultés rencontrées en classe. D'autres dispositifs comme l'ascenseur et les rampes sont là pour faciliter l'accès aux classes.
Pour plus de précisions sur le sujet, je vous invite à écouter l'interview de M. Vaugeois.
Merci M. Vaugeois d'être avec nous pour répondre à quelques questions sur l'école inclusive. Tout d'abord, en votre qualité de principal du collège, pouvez-vous nous dire comment notre établissement adapte-t-il son programme pédagogique pour répondre aux besoins des élèves en situation de handicap ou avec des besoins spécifiques?
Alors, d'une part, il n'y a pas que des aménagements pédagogiques, c'est-à-dire qu'on peut avoir aussi des problèmes d'inclusion, de motricité, c'est-à-dire qu'on peut avoir du mal à se déplacer. Donc, toute l'école est accessible soit par des ascenseurs, soit par des pentes inclinées pour des gens qui pourraient avoir des fauteuils roulants ou qui ont du mal à se déplacer. Donc, l'inclusion, ce n'est pas que pédagogique. Au niveau pédagogique, il y a différents protocoles et de multiples réunions entre les enseignants, les parents, les élèves pour aménager soit les évaluations, soit la prise de notes. Il y a une multiplicité d'aménagements en fonction des difficultés des élèves qui sont diagnostiquées par des médecins parfois pour prendre en compte ces difficultés et les faire progresser à leur rythme.
Très bien. Est-ce que vous proposez des formations aux enseignants pour les aider à mieux accompagner les élèves en situation de handicap?
Alors nous, on en propose peu dans l'établissement, mais en réalité, les enseignants se forment parce qu'il y a tout un plan de formation sur tout le Maroc. Donc en fait, ils vont souvent ou parfois en stage de formation. Alors c'est vrai aussi qu'on a une enseignante qui est un petit peu spécialisée et qui aide, qui accompagne les enseignants, parce que ce n'est pas toujours évident, à mettre en place des protocoles et des aménagements. Mais en général, ce sont plutôt des formateurs qui viennent dans toute la zone Maroc pour aider à accompagner les enseignants, à mieux aider les élèves, parce qu'effectivement, ça sort parfois des pratiques classiques et ordinaires.
Merci. Mais est-ce que les parents des élèves en difficulté sont impliqués dans la réussite de l'intégration de leurs enfants? Et comment travaillez-vous avec eux pour garantir une inclusion réussie?
De toute façon, pour que l'élève progresse, et beaucoup progresse bien même d'ailleurs, on ne peut pas travailler tout seul, ça c'est sûr. Il faut que l'élève soit volontaire, ce qui est souvent le cas. Il faut que nous, on parvienne à trouver les bons outils, les bons moyens pour y arriver. Et il faut aussi que les parents soient avec nous, ce qui est souvent le cas également. Et dans ces cas-là, si les trois parties sont unies, c'est en général une réussite. Parfois, certains élèves ont besoin aussi d'aide et d'accompagnement à l'extérieur, ce que les parents mettent en place. Donc la voie de la réussite pour des élèves qui peuvent avoir des difficultés, mais qui ont aussi plein d'autres qualités qu'on ne voit pas, et c'est vraiment dommage. Mais pour ces élèves-là, la voie de la réussite, c'est que l'école travaille avec l'enfant et que l'enfant soit aidé par ses parents et que les trois travaillent ensemble. Donc c'est beaucoup, beaucoup de rencontres et de réunions aussi avec les parents.
Et maintenant, parlons des projets futurs. Quelles initiatives innovantes avez-vous mises en place récemment pour favoriser l'inclusion scolaire?
Alors, les projets futurs, d'une part, c'est l'achat de matériel spécifique. C'est vraiment ce qui nous manque et c'est vraiment la clé. Ensuite, on est en train de développer tout un plan de formation pour les accompagnants des élèves qu'il y a parfois dans plusieurs classes, mais qui doivent aussi apprendre. Et donc, on développe un plan de formation pour ces personnes-là. L'achat de logiciels, l'achat de matériel et puis la formation des enseignants petit à petit. Il n'y a pas d'innovation véritable en réalité, c'est la continuité et l'approfondissement de ce qu'on fait déjà.
Très bonnes initiatives. Et pour finir, quels sont les projets à venir dans les GSU concernant l'inclusion et quels objectifs souhaitez-vous atteindre dans les années à venir?
Les projets, je viens d'en parler. Concernant l'objectif, l'objectif au final, il est très simple. C'est que chacun réussisse à la hauteur de ses moyens parce qu'un élève qui a des difficultés, par exemple en orthographe ou en écriture, il a plein de qualités. Il a plein de qualités, mais qu'on ne repère pas forcément assez. Il peut réussir dans des filières différentes. Il peut combler ses lacunes. Et c'est valoriser, justement, ceux qui croient avoir des difficultés et, entre guillemets, être nuls, alors qu'ils ne sont pas nuls du tout. Ils ont simplement certaines difficultés. Donc le but, c'est vraiment que chacun soit excellent. Pas forcément dans le même domaine, mais que certains soient excellents dans leur domaine aussi. Et ça, c'est un peu la réussite de l'école inclusive. Ça serait que tout le monde soit excellent, et encore plus que ces élèves qui ont des difficultés soient acceptés par tout le monde. Voilà, ça c'est l'objectif, vraiment l'objectif final, les deux objectifs finaux. Il n'y a pas d'élèves nuls, il y a des élèves tous qui peuvent réussir, chacun avec leurs qualités et leurs difficultés.
Très bien. Au nom de toute l'équipe d'Écoutons La Fontaine, nous vous remercions pour le temps que vous nous avez consacré. La première partie de notre podcast est terminée. Retrouvez-nous très bientôt pour la suite sur Écoutons La Fontaine.